À l'occasion de l'événement national de la fête de la nature, l'association Critique vous invite le mercredi 20 mai à Montlot pour L'eau, un récit commun. Une rencontre sensible et collective autour de l'eau, ressource vitale et bien commun. Pour en parler sur le plateau de Fréquence Mistral Manosque, Céline Thévenot pour l'association Critique. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Merci. Comment ça va chez Fréquence Mistral ?
Ça va impeccablement bien. Nous sommes ravis de vous avoir à nouveau cette année sur le plateau. Est-ce que vous pourriez présenter l'association Critique ?
Bien sûr, avec plaisir. L'association Critique est née il y a à peu près 4-5 ans sur le territoire. Son siège social est basé à Lurs, le petit village du 04, perché. Et puis depuis le début de cette aventure, c'est une association qui propose un regard critique sur nos humanités à travers différents événements qui viennent toujours traiter d'une thématique un peu spécifique, sociétale, parfois politique, et en tout cas toujours très engagée, et qui propose au public de traiter cette thématique d'une manière hybride, c'est-à-dire avec plusieurs entrées, qui soient artistiques, culturelles, scientifiques, participatives, et afin de pouvoir justement développer une culture commune autour d'une thématique.
Alors, justement à l'occasion de la fête de la nature, je le disais, il va y avoir un événement qui s'intitule « L'eau, un récit commun ». D'où est partie cette idée ? Alors, ça inclut dans un projet beaucoup plus long, hein, qui s'appelle Ressources vives, dont on parlera.
Alors, l'eau, un récit commun, c'est effectivement un second volet, la continuité d'un premier événement que l'association Critique a organisé en 2023 à Lurs, qui s'appelait déjà L'eau, un récit commun, et c'était toute une journée événement, journée et soirée, autour de l'eau. Mais il s'agissait de traiter de la question de la gestion de l'eau potable du robinet.
Sur notre territoire.
Sur notre territoire, et plus particulièrement sur la communauté de communes Fort-Calquier-Montagne de Lure, puisqu'à cette époque-là, au niveau national, mais sur nos territoires aussi, il fallait se décider sur la question de la délégation à un service public de l'eau du robinet. Et donc, ça avait créé beaucoup d'émoi parmi les habitants, les habitantes. Et l'association s'était saisie de ce sujet-là justement pour essayer de proposer un temps, un espace d'échange, de rencontre, d'interconnaissance, où on puisse venir justement mieux connaître, mieux identifier et comprendre nos usages de l'eau. Et c'est vrai que l'eau, on ne sait jamais trop d'où elle vient, comment elle arrive, quel est son cheminement. Pour arriver au robinet, c'est vraiment un élément essentiel de nos vies au quotidien. Et pour autant, on manque beaucoup d'informations et de connaissances à son sujet. Donc voilà, c'est un événement qui avait été une première tentative de se regrouper autour de cette thématique-là. Et il y avait eu beaucoup de monde parmi les publics toute la journée et la soirée. On avait eu du théâtre forum, des expositions, de la vidéo danse, les écoliers de l'école de Lurs qui avaient aussi participé à leur manière. Il y avait eu tout un tas de propositions très enrichissantes qui avaient réuni pour la soirée débat autour de cette thématique plus de 80 personnes dans un tout petit village. C'était assez étonnant et plutôt bienvenue. On était très contente de cette proposition-là. Et donc, ce sujet nous tient à cœur. Là, on continue donc avec la question de l'eau, mais plus largement. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'eau comme ressource à sa source. Donc, c'est nos rivières, nos sources, nos mers, nos océans. Enfin, voilà, vraiment l'élément, l'entité eau. Et pour venir la regarder, l'observer, essayer de mieux la comprendre aussi, l'identifier, au regard justement de cet enjeu climatique dans lequel on est, auquel on doit faire face, et pour les générations futures.
Par rapport au projet, au gros projet Ressources vives, pourquoi avoir imaginé un projet déployé sur 3 ans ?
Alors justement, parce que l'association a envie de prendre le temps. La question écologique, la question des ressources essentielles à la continuité de la vie humaine, ou en tout cas des espèces vivantes sur cette terre, nécessite de se pencher sur des questions de transition et des questions d'évolution de nos pratiques avec un temps long. En Occitan, c'est longomai. On le sait par ici que le temps long, il est nécessaire. Notre société veut toujours aller très vite, être productive et ne pas forcément faire des plans sur le long terme.
Ce qui Alors est pourtant... que la nature aime bien la lenteur.
Et la nature prend son temps. Alors, il y a une saisonnalité, il y a de la redondance, il y a des cycles, mais tout prend énormément de temps. Et c'est vrai que du coup, on s'est dit qu'on ne pouvait pas aborder cette question-là.
De façon superficielle.
Exactement. Il fallait prendre le temps.
Oui. Comment vous pouvez envisager l'avenir de ce projet à long terme, hein, bien sûr, après 3 ans par exemple ?
Bah déjà, on essaye de boucler la première année. On a vraiment le soutien de beaucoup de partenaires, d'institutions, de structures du coin et des structures aussi extra-régionales. Donc, ce qui nous conforte aussi dans la volonté de faire perdurer ce projet et de continuer cette idée de le développer sur 3 années. C'est un projet qu'on a pensé sur 3 années avec des années qui sont un petit peu déjà dessinées, mais duplicables. Et puis, évidemment, qui peuvent être en évolution, être modifiables, ajustables en fonction de la réalité de ce que l'on rencontrera sur le terrain et auprès des riverains. Et c'est vrai que c'est un petit peu mettre notre grain de sable dans la machine que de vouloir aussi mettre à plat tout ce qui concerne nos ressources et notamment cette ressource vitale qu'est l'eau pour qu'il y ait peut-être quelque chose qui puisse être de l'ordre de la, pas de la prise de conscience, mais en tout cas du pouvoir d'agir. Rendre du pouvoir d'agir à mes concitoyens, mes concitoyennes, je pense que moi, comme les autres personnes de l'association, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur.
Pour revenir justement à cet événement, l'eau, un récit commun qui aura lieu le mercredi 20 mai à Montlot, je le rappelle, lors de la fête de la nature, c'est un événement national. Comment est née l'idée de ce projet, l'eau, un récit commun, et pourquoi? On l'aura bien compris, mais vous avez choisi comme fil conducteur l'eau.
Oui, tout à fait,
rencontre.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on se laisse aussi porter par les rencontres, par les propositions des uns, des unes et des autres. Le projet est, Ressources vives dans sa globalité est né aussi d'une volonté de laisser l'espace à la contribution, à la participation des personnes, quelles qu'elles soient. Et donc, l'eau, un récit commun, vient s'inscrire aussi dans cette volonté de pouvoir acculturer un maximum de personnes. Donc, que l'on puisse partir tous et toutes avec un petit peu les mêmes notions et cultures, connaissances de base sur cet élément-là. Et pourquoi l'eau, un récit commun? C'est parce que, évidemment, on a ce bien commun à partager, à se partager et à protéger. Et comme l'association traite toujours des sujets qui sont sociaux, sociétaux, politiques, de manière culturelle ou artistique, on pense l'événement de la même manière. C'est-à-dire que le récit, c'est aussi comment créer de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires. Face à l'ampleur du désastre écologique, on a besoin d'espace.
Il y a urgence.
Mais on a besoin d'espace, d'espoir, de création, de perspective, de rêver l'avenir. Et donc, voilà, on s'attelle en tout cas à proposer des espaces qui, on l'espère, pourront créer ce moment-là pour les personnes qui participeront. On a pensé cette journée autour d'abord d'un atelier d'écriture qui sera en balade. Donc justement, prendre le temps dans un espace qui est celui de la rivière Le Lauzon, et de parcourir un chemin qui ne sera pas forcément très long, mais un chemin durant lequel l'intervenante Marie Perra, qui est aussi naturaliste et poétesse, permettra par ses méthodes d'atelier d'écriture d'amener les publics à écrire des récits autour de nos attachements à l'eau et de nos imaginaires face à cette ressource, à ce bien commun, pour peut-être évidemment, on l'espère, nous les restituer à leur retour, mais on laisse place aussi à la volonté de chacun et de chacune, et donc de pouvoir aussi s'inspirer simplement d'un temps qu'on prend au bord d'une rivière pour écrire quelque chose, écrire à sa rivière, écrire à la rivière qu'on a connue, écrire aux rivières qu'on espère connaître.
Donc, selon vous, cette approche artistique et participative du public, elle permet de sensibiliser de façon différente aux enjeux liés de l'eau?
Oui, effectivement. Et souvent, les scientifiques ou en tout cas les structures dites environnementales qui travaillent à la sensibilisation autour des enjeux écologiques ne peuvent que l'éprouver, le constater et nous le partageons. C'est que nous avons besoin d'entrer de médiums qui soient tout aussi diversifiés que d'êtres vivants que nous sommes et de pouvoir justement traiter ces sujets-là avec d'autres biais, d'autres médiums. Parce que effectivement, la culture, c'est quelque chose aussi qui est un bien commun, qui est né de nos humanités et de notre histoire avec un grand H, et donc de s'en servir comme un outil pour continuer cette sensibilisation, ça nous paraît aussi être un espace plutôt privilégié et attendu.
Donc on peut dire que l'art aujourd'hui est un outil d'engagement écologique?
Bien sûr, et de plus en plus dans la création actuelle, on voit dans le spectacle vivant notamment des artistes qui s'engagent sur des questions de ce type-là, à travers leur création, justement, tout public. Et c'est très important de pouvoir aussi se saisir des enjeux qui sont les nôtres et de la réalité des humains, en fait, pour pouvoir la partager. Mais que ce soit dans la poésie, que ce soit dans la musique, que ce soit voilà, dans le théâtre, on a des choses à dire, des choses à se transmettre, à partager. Et c'est comme ça que nos cultures aussi évoluent et que nos regards sur le monde et nos façons d'être au monde évoluent.
Lors de cette journée, quel message, alors le message principal, quel message principal vous aimeriez transmettre au public à travers justement cet événement et quelle émotion espérez-vous susciter chez les participants ?
Alors les émotions, c'est quelque chose de très subjectif et chacun, chacune sera voilà, dans ce cheminer avec l'eau accompagné par l'animatrice. Ce qu'on espère, c'est...
Une prise de conscience peut-être ?
Non, c'est plutôt... je pense que la prise de conscience, il faut pas... Enfin, je pense que les gens sont au courant hein, depuis le temps qu'on le traite. Bon, il y en a qui restent dans le déni, mais on a quand même une grosse part de la population qui a pris en main les choses et qui sait. Aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction des connaissances qu'on a et de grandes ressources que nous avons qui sont à notre disposition pour comprendre l'ampleur des catastrophes à venir, et notamment vis-à-vis de l'eau. On ne parle plus de crise hydrique, mais de faillite hydrique. Donc, c'est dire la problématique à venir. Je dirais plus que, justement, maintenant qu'on a connaissance de ça, comment est-ce qu'on active ? Quels sont les leviers ? Comment est-ce qu'ensemble, collectivement, on arrive à penser les choses différemment ? Et l'idée, c'est quand même de pouvoir retrouver du pouvoir d'agir, parce que c'est ça qui nous manque, c'est ça qui fait que parfois on se sent abattu, sidéré ou en tout cas un peu impuissant face à l'ampleur des dégâts. Et donc nous, c'est aussi venir réactiver tout ça, réactiver la possibilité, le potentiel en chacun, chacune, de pouvoir se réarmer pour désarmer justement ceux qui détruisent le vivant.
Oui, grâce au travers de cet événement, de ces actions, vous souhaiteriez que notre rapport, enfin le rapport du citoyen, change par rapport à cette ressource.
Je dirais que moi, je ne tiens pas, et en tout cas, l'association ne tiendra pas un discours qui soit culpabilisant à titre individuel. On sait très bien que le système dans lequel nous sommes, de fonctionnement économique, capitaliste, etc., engendre la destruction des espèces vivantes et de nos écosystèmes. Ce n'est pas à titre individuel qu'on va pouvoir faire ces changements-là qui sont plutôt au niveau gouvernemental. Mais en tout cas, de pouvoir aussi chacun, chacune, savoir où est-ce qu'on peut, nous, agir à notre échelle, ça change déjà la donne. Et puis, je me dis, et on se dit que, globalement, si collectivement, on a tous de plus en plus envie d'agir, de pouvoir faire levier, quelque part, on est plus nombreux. Donc, forcément, un jour, la balance sera de notre côté et du côté des vivants. Parce que tout ça, c'est quand même l'idée que, sur notre territoire, nous avons des cours d'eau, nous avons la Durance, et ce sont des ressources précieuses. Alors, même le terme de ressources me semble aujourd'hui problématique, puisque une ressource induit l'idée que elle nous est due, qu'elle nous est comment dire confortable, en tout cas qu'elle nous sert à quelque chose et qu'elle se doit d'être productive pour notre bien-être et notre continuité. Mais en fait, elle se suffit à elle-même, et c'est aussi dans ce projet large global de ressources vives de mettre le doigt sur ce que Michel Serre, dans les années 90, nommait déjà, c'est-à-dire le contrat naturel. Il avait déjà évoqué, donc avant les années 2000, cette idée de donner des droits à la nature. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de penseurs intellectuels, philosophes, professeurs, qui sont vraiment sur cette dynamique-là, de donner des droits à la nature, parce qu'on se doit, nous, de la défendre. Et nos leviers d'humains, ce sont les droits, la législation, le juridique, etc. Donc c'est aussi des manières de penser qui émergent d'espaces collectifs. Donc voilà. Tout est parti de l'idée aussi dans ce projet de l'arte povera, donc qui est vraiment une façon de voir aussi l'art, qui viennent d'en bas, qui viennent des gens...
N'importe quel médium qu'on utilise, le théâtre,
exactement,
le cinéma...
Exactement, que ça vient d'en bas pour remonter. Et c'est ça qui nous...
Avec très peu de moyens également.
Exactement, et c'est ça qui fait la richesse aussi de nos rencontres, de nos échanges.
Alors aujourd'hui... Par rapport aux enjeux environnementaux, quels sont les principaux défis liés à l'eau sur notre territoire ?
Moi, je ne suis pas ni hydrologue, ni naturaliste, ni
moi
scientifique.
Moi non plus, je vous rassure.
Voilà, moi, je suis,
C'est pour ça que je vous pose la question.
Moi, je suis à l'articulation, justement, de ces secteurs-là et de ces personnes qui ont ces compétences-là. Et évidemment qu'ici comme ailleurs, on a une faillite donc, hydrique assez importante à venir et qui existe déjà sur nos territoires en période estivale. Voilà. On a aussi des enjeux agricoles très importants autour de ces questions-là. La maïsiculture, les formes de rétention d'eau aussi sur nos territoires ruraux, qui est très problématique hein, aussi sur ce territoire-là. Et puis évidemment, on peut travailler et penser aussi simplement la protection de nos ruisseaux à travers la pollution. C'est-à-dire que toutes nos pollutions, certes, polluent nos ruisseaux, mais polluent à l'arrivée la mer Méditerranée. Et ce qui est aussi une conséquence assez catastrophique. Donc la pollution, c'est aussi un des enjeux du projet et de pouvoir aussi imaginer alors toutes les nouvelles perspectives alternatives qui sont nées notamment d'une vulgarisation qui était très bienvenue et très bien menée depuis quelques années par le philosophe Baptiste Morisot et Suzanne Husky dernièrement avec leur ouvrage « Rendre l'eau à la terre ». Qui est un ouvrage que je conseille vraiment, qui est magnifique et qui traite justement de cette manière qu'a certaines espèces vivantes de faire le travail. Le travail, celui qu'on ne sait pas faire, celui qu'on a oublié, celui dont on doit s'inspirer aujourd'hui, pas que pour protéger, mais aussi pour régénérer. Donc cette idée de aussi pouvoir être levier sur la régénération de nos rivières en s'inspirant des animaux qui vivent là, comme le castor, qui lui a une méthode millénaire en créant des ouvrages, il crée des zones humides, et des zones humides, ben, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée énormément de végétation, de biodiversité végétale, animale, etc. Et de là, on lutte contre la sécheresse, contre les incendies, et on retrouve une forme d'eau, enfin voilà, en tout cas il y a de l'eau et ça c'est quand même très désirable. Donc voilà, de s'inspirer aussi de ce qui nous entoure dans le monde animal, je trouve que c'est une force et c'est quelque chose qui peut nous réunir. Encore une fois, l'idée de ressources vives et l'idée de cette première journée donc dans le cadre de la fête de la nature, c'est vraiment de venir célébrer ensemble ce qui nous entoure et les écosystèmes qui nous entourent pour mieux les comprendre.
Y a-t-il beaucoup de castors dans les Alpes de Haute-Provence ?
Alors oui, il y a des castors dans les Alpes de Haute-Provence, sur la majorité de nos ruisseaux, et dans la Durance également. Et puis nous avons aussi la loutre dernièrement, qui a été identifiée. Donc c'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'à partir du moment, à partir du moment où on commence à recréer des espaces pour eux, et tout ça c'est grâce aussi à des personnes très engagées au niveau du CEN PACA. Donc c'est une structure qui s'occupe justement de la question de l'environnement et qui a sanctuarisé, entre guillemets, toute une prairie en faisant l'achat d'une parcelle agricole avec une commune, la commune de Rayanne, autour de l'Encrème, donc ce ruisseau qui est pas très long, qui fait 10 km entre Cérès, Montjustin et Rayanne. Et du coup, les agents du CEN ont pu mettre en place une préservation de cet espace-là en sollicitant l'agriculteur qui cultivait justement sa prairie aux abords de ce ruisseau, en faisant un bail environnemental et en protégeant par divers outils ce ruisseau à cet endroit-là, donc avec interdiction de détruire justement les ouvrages qui seraient faits par les castors. Et en fait, le castor, il s'est installé, il a fait une famille.
Il n'a pas été réintroduit, la loutre non plus.
Non.
C'est devenu tout à fait naturellement.
On n'a pas le droit de réintroduire, à part dans des conditions très très spécifiques.
Okay.
Et donc le castor est venu s'installer. Maintenant, ils sont une famille de 4. Il élève ses petits castors ici. Ils ont créé 5 ouvrages qui ont fait remonter énormément le niveau de la rivière. Et ce qui est plutôt très bénéfique, puisque nos rivières sont assez malades. C'est-à-dire que quand on voit des rivières qui sont incisées, qui vont tout droit et vite, ce sont des rivières malades. Une rivière, elle est censée méandrer, elle est censée ralentir à certains endroits, faire des virages, venir... Et de ça naît la biodiversité. Une rivière qui va tout droit et qui est profonde, c'est une rivière qui ne crée pas de vie. En fait, la vie ne peut pas s'installer, le limon s'en va et les animaux ne peuvent pas rester. Donc là, grâce à ce castor, on a de nouveau un ruisseau qui est très vivant. Et ça a pris quelques années seulement. Enfin, ça va très, très vite.
Oui, ça va très vite.
Ça va très vite et c'est très intéressant comme modèle.
Est-ce que vous pensez que les citoyens sont suffisamment impliqués dans les réflexions, comme vous faites aujourd'hui autour de la gestion de l'eau, par exemple?
Ben, je pense justement qu'en mettant le doigt dans cette thématique, au fil des années, on se rend compte que oui, en fait, les riverains, les habitants de ce territoire sont très concernés, sont très inquiets. Et on peut le voir aussi par l'engouement, le soutien du nombre de partenaires et de structures locales qui soutiennent le projet et qui s'associent au projet. Ça nous montre vraiment qu'il y a un réel intérêt, une réelle interrogation sur ces questions-là. Et donc oui, les personnes vivant dans ce territoire, mais ailleurs aussi, savent ce qui se passe, ont envie d'agir. Et donc, c'est aussi, justement, encore une fois, la volonté de créer des espaces où on peut retrouver du pouvoir d'agir en étant ensemble.
Quels sont les acteurs du territoire qui sont impliqués?
Alors, tout d'abord, on a le département avec le service culturel, que l'on remercie énormément. On a aussi des institutions comme l'Agence de l'eau, qui est aussi notre partenaire. On va avoir le CEN, la FNE, France Nature Environnement, en termes de partenaires associatifs et environnementaux. Évidemment, la Fête de la Nature, des associations locales. On attend des soutiens financiers de la DRAC, de la DREAL, etc. Mais ça se fait encore un petit peu tarder. C'est la première année que l'association fait cette démarche de fonctionner avec des subventions publiques, puisque jusqu'à aujourd'hui, on fonctionnait qu'en autoproduction et avec des bénévoles. Mais on aimerait justement prendre un tournant aussi dans la structuration de cette association afin de rémunérer tout le monde.
Bien sûr, parce que l'association œuvre pour le bien commun.
Exactement, mm-hmm. Et que tout le monde soit rémunéré à juste titre, ça nous semble plutôt pas mal. Donc voilà, on a tout un tas d'acteurs et le FRAC Sud a validé un partenariat aussi pour 2027. Donc le FRAC Sud, c'est le Fonds Régional d'Art Contemporain qui est situé à Marseille mais qui a aussi une mission en région et donc de venir aussi pouvoir faire rayonner l'art visuel dans nos campagnes. Ça nous paraissait assez important de pouvoir se conjuguer nos forces autour de cet enjeu-là. Et puis, évidemment, on a aussi des fondations privées, puisque aujourd'hui, on est aussi dans l'obligation d'aller chercher vers des fonds privés pour pouvoir faire vivre nos projets et la culture. Donc, pour ne pas la citer, si je la cite bien sûr, Fondation Daniel Mitterrand, qui a énormément œuvré justement sur la question de l'eau. Donc, on est très contente aussi d'avoir ce soutien-là. Et puis, d'autres fondations et les communes, notamment de l'URSS Mont-Lot, qui sont de sérieux et précieux partenaires. Donc ça, c'est toujours en les remerciant énormément. Et donc voilà, on a aussi des associations du côté de Marseille, comme l'association Mer Terre, qui vient vraiment travailler sur l'enjeu des conséquences de la pollution des ruisseaux en mer Méditerranée. Et donc voilà, pour le tour des partenaires, ça donne aussi une vision un petit peu de l'ampleur que ce sujet-là est intéressant et intéresse. Parce que donc, la journée du 20 mai, elle va donc s'articuler autour de cette rencontre atelier d'écriture balade autour du Lauzon avec Marie Perra, donc de 14h30 à 17h. Et puis ensuite, on se retrouvera donc à la salle culture et loisirs du village de Mont-Lot, où on pourra prendre un temps d'échange pour justement motiver la coopération autour de ces enjeux, laisser la place aux riverains et aux riveraines qui auraient envie de contribuer à ce projet-là, parce qu'on a une idée, on a commencé à tisser une programmation, mais évidemment, on laisse l'espace justement pour les personnes qui auront envie de faire des propositions, pour les personnes qui ont des compétences, parce que les gens ont des tas de compétences.
C'est vrai.
Et de justement pouvoir laisser l'espace à ces envies-là, à ces possibles-là. Et puis, on continuera et on finira la soirée à 18h30 avec la projection du film documentaire Durance 360, qui a été réalisé par France Nature Environnement 04. Et on aura le plaisir de cette projection en compagnie du président de l'association, Pierre Gotardi, qui sera là aussi pour des échanges et débats qui suivront. Voilà donc la programmation complète pour s'inscrire à l'atelier, parce qu'on a voulu que ce soit un temps aussi assez confortable pour tout le monde. Donc on a 8 participants maximum, donc il faut s'inscrire par mail contact@critique-asso.fr afin de participer. Cet événement s'inscrit dans la journée nationale de la fête de la nature. Tout est gratuit sur adhésion à l'association, et l'adhésion à l'association est à prix libre. Parce qu'une volonté de l'association aussi, c'est de pouvoir être le plus accessible au plus grand nombre.
C'est le mercredi 20 mai à Mont-Lot. Merci Céline.
Merci beaucoup.